Bonjour à tous. Peut-être un seul micro, ça suffit. On est très heureux ce matin, encore une fois, de partager ce temps de culte avec vous, avec mon épouse Pascaline, et nos trois enfants, Ilian, Coraline et Emmanuel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup de visages que je ne connais pas aujourd'hui, on était dans cette église pendant plus de 10 ans, et Dieu nous a appelés en 2008 à partir au Burkina Faso pour construire un internat chrétien, une école d'excellence, qui soit là créé vraiment pour être un témoignage, comme un phare dans ce pays, que Dieu peut reconstruire un champ de ruines. Tout à l'heure, Emmanuel parlait de ruines, parlait de reconstruire un palais. Et je dis à Pascaline, vraiment avec Dieu, là, il n'y a pas de hasard. C'est vraiment le même esprit qui nous conduit. Puisque le message que je vais partager avec vous aujourd'hui, on va parler de construction, de bâtiment. Beaucoup d'entre nous, on pense que, nous, quand on part en Afrique, on nous a dit, ben, les gens qui visitent l'école, waouh, quelle école! Les bâtiments sont magnifiques, les bâtiments sont beaux. C'est vrai, mais le plus important pour moi, ce n'est pas de construire des bâtiments, c'est de construire les êtres vivants, les êtres humains qui sont dans cette école et qui doivent être éduqués dans la crainte de Dieu et qui doivent être capables de prendre demain le relais et de pouvoir manifester la gloire de Dieu dans leur pays, pour relever justement ces murailles qui se sont effondrées de l'Afrique en général et du Burkina en particulier. Et moi, j'aimerais ce matin vous dire, pas de découragement, pas de découragement. Quand on regarde le monde autour de nous, quand on regarde nos églises, nos familles, nos pays, on a envie de pleurer, on a envie d'être désespéré. On se dit qu'il n'y a plus de solution. Et même les chrétiens souvent se découragent. Et ils oublient bien souvent qu'en fait, tout ce que nous sommes en train de vivre, la parole de Dieu nous l'a annoncé. Beaucoup d'entre nous oublions que nous sommes dans une période qu'on appelle la fin des temps. Je m'excuse, j'aime me balader. Hein. Donc la fin des temps, ça ne veut pas dire la fin du monde. Mais on est proche du retour de Jésus. Et la Bible nous décrit en détail tout ce qui va se passer avant le retour de Jésus. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre dans nos nations, ce que nous sommes en train de vivre dans nos églises, dans nos familles et dans notre cœur, nous, en tant qu'individus, en tant que chrétiens. Et on a bien souvent oublié que, ben voilà, être chrétien, ce n'est pas venir à l'église le dimanche, simplement, chauffer les bancs, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Jésus n'est jamais venu, je dis souvent quand je viens ici, Jésus n'est jamais venu pour faire des chrétiens. Il est venu faire quoi, Jésus ? Des disciples. Il est venu pour créer des gens à son image, pour nous donner son esprit, c'est-à-dire sa capacité de mener une vie dans la sanctification, dans la sainteté, pour être des solutions au milieu de notre génération. Et les jeunes, franchement, vous êtes un temps qui est à la fois très difficile, mais en même temps un temps qui est un temps d'espérance. Jésus revient, on est peut-être la dernière génération, je n'en sais rien, mais une chose est sûre, les défis qui sont devant l'Église sont énormes. Et ces défis, c'est à nous, les aînés, de transmettre ces défis-là à nos enfants, à nos petits-enfants, à les affermir. Parce que les temps qui viennent ne sont pas faciles, ne sont pas roses. Le monde dans lequel on vit, ça va se dégrader, ça va aller en s'empirant. Et j'avais envie de dire, les chrétiens devraient dire « Alléluia !» Puisque c'est quand tout va mal, quand tout va bien, c'est facile d'être chrétien. Quand tout va bien, c'est facile de parler de Jésus, de parler de Dieu, de parler de bénédiction. Mais quand tout va mal, que fera le juste? Et la Bible dit que le juste, il fera quoi? Il lèvera les yeux vers l'Éternel. Et nous avons besoin, dans nos vies quotidiennes, de retourner à l'Éternel, de retourner à Christ, de retourner à sa parole et de lever les yeux vers Dieu. D'où nous viendra le secours? Tout dans le monde passe. La richesse, l'amour sentimental, les choses matérielles, tout passe. Mais la parole de Dieu, elle est éternelle. Et moi, j'aimerais ce matin qu'on s'encourage ensemble autour de cette parole. J'aimerais pas avoir un langage de découragement, mais au contraire, vous laisser un message d'espoir et d'espérance. Et de vous dire à la jeunesse, vous avez un beau défi devant vous. Personne ne pourra faire le choix à votre place. C'est à vous de savoir si vous servez l'Éternel de tout votre cœur, et moi et ma maison, nous avons décidé de servir l'Éternel, ou bien si vous avez décidé de servir le royaume des ténèbres. Et le problème, c'est qu'avec Dieu, ce n'est pas nuancé. C'est ou blanc ou noir. Il n'y a pas de gris. La Bible dit, quand on parle à l'église de Laodicée, que Jésus vomira les tièdes de sa bouche.
Or, beaucoup d'entre nous, nous sommes tièdes. Nous sommes attiédis par la société dans laquelle nous vivons. Nous nous laissons influencer par la culture, influencer par la société, au lieu, nous, en tant que disciples, de donner du goût, d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Et moi, j'aimerais qu'on retrouve ce zèle, ce goût pour l'éternel, pas en comptant sur nos capacités, on n'en est pas capable, pas en comptant sur notre très grande intelligence, nous sommes tout petits. Nous sommes des petits hommes qui servons un grand Dieu. Et ce grand Dieu, par son esprit qui habite en toi, qui habite en moi, est capable de nous faire faire des choses miraculeuses. À partir du moment où tu t'abandonnes complètement et pleinement entre les mains de ce Dieu vivant. Ce Dieu vivant qui n'est pas le Dieu du dimanche matin, mais qui est le Dieu de toute la semaine. Et de la même manière qu'on rebâtit avec des pierres vivantes ce pays qu'est le Burkina, moi j'aimerais qu'on rebâtisse la France. J'aimerais qu'on rebâtisse la Suisse. J'aimerais qu'on rebâtisse nos églises, qu'on rebâtisse nos familles, qu'on rebâtisse notre jeunesse. Et cette semaine et la semaine dernière, enfin même pas, ça fait 6 semaines qu'on est en France et en Suisse, on tourne. J'ai prêché dans plusieurs églises, des églises de cœur, comme me prêve saint, dont je suis toujours membre, l'église de Dell, qui m'a construit avant de m'envoyer chez vous ici. On est parti dans une petite église à Weislingen, dans l'Alsace-Bossue, pour ceux qui connaissent. J'ai prêché à l'église de Tonon, et on a visité beaucoup de familles. C'est un temps béni. Alors, ce n'est pas des vacances. Hein. On est un peu fatigué, vous voyez que les yeux, c'est un peu cerné. Mais quelle grâce de pouvoir échanger avec des frères et sœurs. Mais également, quel challenge quand on entend les difficultés. À l'église, souvent, les gens portent un masque. Souvent, on cache quand ça ne va pas. Mais quand vous vous tournez dans les familles et que vous voyez comment Satan est en train de se déchaîner, on se dit qu'on a intérêt à se réveiller. Individuellement d'abord et collectivement ensuite. On a intérêt à découvrir ce que j'ai découvert en Afrique que je ne connaissais pas, le combat spirituel. Moi, quand on est parti, Pascal m'a dit « Tu es convaincu ?» Moi, j'étais sûr à 100%, Dieu m'a appelé. « Tu es prêt à payer le prix ?» Oui, 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 je ne savais pas ce que c'était que le payer le prix. Mais je me disais que Jésus a tout payé, il a tout pris à la croix, donc c'est lui qui va faire. Et une fois qu'on serait dans sa volonté là-bas, tout serait facile et tout serait rose. Mais depuis qu'on est là-bas, on n'a jamais été autant attaqué spirituellement, autant attaqué par les critiques, par tout ce que vous voulez, par le monde musulman et autres. Et donc, on a dû se réveiller. Si on ne s'était pas réveillé spirituellement, on serait mort aujourd'hui. On serait peut-être revenu. On ne sait pas ce qui se serait passé. Et ce qui s'est passé dans ma vie, dans la vie de mon épouse, ce qui s'est passé dans la vie d'un certain Néhémie dont on va parler, ça peut se passer dans ta vie. Dieu ne regarde pas tes capacités. Plus tu es faible, plus tu es écrasé par la vie, plus ta vie est un champ de ruines, plus Dieu dit, voilà, tu es un bon spécimen pour moi. Maintenant, je peux prendre le contrôle. Maintenant que tu as compris que tous tes efforts ne servaient à rien, je vais prendre ta vie en main et je vais faire de ce champ de ruines un beau palais, ce palais dont parlait Emmanuel tout à l'heure. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Néhémie. Les jeunes, il y a quoi avant Néhémie comme livre ? Petit test, les jeunes, ouais, c'est vrai que les jeunes, alors je précise, on peut être jeune jusqu'à, oh là là, Esdras, et juste après, Esther, Job c'est après. Donc on va prendre le livre de Néhémie, dans Néhémie 1. Néhémie 1, est-ce que vous savez ce que veut dire le mot Néhémie ? Est-ce que vous savez même que le prénom qu'on donne à nos enfants, c'est souvent une prophétie sur leur vie ? Et Néhémie, ça veut dire « Dieu console ». Ça veut dire le consolateur, le réparateur de brèches. Ce Néhémie, on va le remettre dans son contexte avant de lire le texte, c'était l'échanson, celui qui servait le vin, c'était un des plus hauts fonctionnaires de la cour du roi Artaxerxès, la plus grande puissance politique et économique de son temps, le royaume de Babylone. Et ce Néhémie, il faisait partie du peuple juif qui avait été déporté juste auparavant. Et il était loin de Jérusalem. Mais même avec son poste à haute responsabilité, certainement haut revenu, il avait tout ce qu'il voulait, son cœur saignait après son peuple. Son cœur saignait après Jérusalem. Il voulait avoir des nouvelles de Jérusalem, là où était la présence de Dieu, le temple du Dieu vivant. Et vous savez quoi ? Il est arrivé justement dans la ville où il était, des gens qui arrivaient d'Israël. Et il est parti leur demander... Comment ça se passe à Jérusalem ? Comment ça se passe dans la ville, la grande ville ? Comment est la ville ? Et on va lire ensemble la réponse qu'on lui a donnée. Donc chapitre 1 à partir de verset 3. Et ils me répondirent, ceux qui sont restés dans la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, c'est Néhémie qui parle, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Néhémie entend la pire des nouvelles. Les murailles sont en ruine, les portes sont ravagées par les flammes. Le peuple est mis en déroute. Est-ce que la situation a beaucoup changé aujourd'hui? Vous savez que moi j'aime beaucoup Jésus parce que Jésus part toujours d'exemple du naturel pour, de la vie de tous les jours pour nous expliquer le spirituel. Et là c'est la même chose avec Néhémie. Il existe des murailles naturelles. Il y avait les portes de Jérusalem. Il y avait les vraies murailles naturelles de Jérusalem qui étaient en ruine. Mais vous pensez qu'on n'a pas des portes et des murailles spirituelles? Vous pensez qu'on n'a pas livré nos portes à Satan dans certains domaines de nos vies? Vous pensez que nos murailles ne se sont pas abattues en France, en Suisse, au Burkina, dans nos assemblées, dans nos familles, dans ma vie? Et moi, j'aimerais vous dire, oui, c'est vrai, aujourd'hui, si on fait le bilan, on a un champ de ruines. Nos pays sont un champ de ruines. Nos familles sont un champ de ruines pour beaucoup. Nos églises sont parfois des champs de ruines. Je suis parfois un champ de ruines, brisé, cabossé par la vie. Parce que j'ai vécu ce qu'on m'a fait vivre. Mais la Bible te dit, quelle est ta réaction? Est-ce que tu passes ta vie dans l'aigreur, l'amertume, critiqué? Ou bien on va devenir enfin des Néhémie? Qu'a fait Néhémie? Néhémie n'a pas passé son temps à pleurer, se lamenter seulement. Il a dit, je me suis mis à jeûner et à prier. Jeûner et prier. Et beaucoup, malheureusement, en son temps, ne le faisaient pas. Et je vais vous donner un autre passage dans Ézéchiel 13, verset 5. Dieu, par la bouche de ses prophètes, parle. Il parle encore aujourd'hui par la bouche d'hommes et de femmes. Et de la même manière que le peuple avait les oreilles fermées à l'époque, aujourd'hui on ferme nos cœurs à la parole de Dieu. Et dans Ézéchiel 13, verset 5, Dieu fait un reproche à l'époque à ses prophètes. Mais aujourd'hui, on est tous des prophètes. On est les prophètes de sa propre vie. On est les prophètes de sa propre vie. Notre vie entre nos mains devient ce que nos bouches disent et devient ce que la parole de Dieu mise en application ou non dans nos vies. Et Dieu leur disait, vous n'êtes pas montés devant les brèches. Vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour tenir ferme dans le combat au jour de l'Éternel. C'est pas d'aujourd'hui que ce combat est allumé. Depuis que Satan est venu sur la terre, il sait qu'il a peu de temps. Et la Bible dit qu'il est en train de se déchaîner dans l'Apocalypse, de se déchaîner pour entraîner même dans le péché et hors du salut les élus, ceux qui avaient choisi Jésus-Christ. On n'est pas monté devant les brèches, et nous? Est-ce qu'on est monté devant les brèches? Est-ce qu'on a vu même les brèches dans notre pays, la France? Pays aujourd'hui voué plutôt à un nouveau Dieu qu'est le rationalisme ou l'amour de l'argent, le matérialisme. Est-ce qu'on a pris position? Est-ce qu'on a commencé à prendre position également pour nos églises, pour nos familles? Aujourd'hui, des choses se passent. Ah, c'est comme ça, il faut pas accepter. On est dans un combat. On connaît la parole. On connaît le plan de Dieu pour nos vies. Il a des plans de bonheur et non pas des plans de malheur. Il y a des choses qu'on ne doit pas accepter. Et c'est la société qui nous endort et qui nous entraîne à aller sur le chemin de la facilité. Et aujourd'hui, au lieu que l'Église influence le monde rentre dans les Églises et influence l'Église. Et ça, on le sait, c'est déjà annoncé dans les derniers temps. Et moi, j'aimerais vous dire, on est dans un combat. Dans un combat, il n'y a pas de neutre. Beaucoup de Suisses parmi nous, hein. Il n'y a pas de neutralité. Soit tu es avec Christ, soit tu es contre lui. Soit tu prends position fermement sur la parole, soit tu baisses pavillon et tu deviens un collaborateur de Satan. Même si tu ne le veux pas, tu vas collaborer avec Satan. Ça doit changer. On doit se lever. La Bible nous dit, Néhémie, peut-être dans toute sa génération avec Esdras, étaient les deux seuls qui avaient pris le taureau par les cornes. On doit se réveiller dans nos familles, dans nos églises. On doit se réveiller dans nos nations. On doit devenir de nouveaux Néhémie. La France, la Suisse, le Burkina ont besoin de Néhémie. Ils ont besoin de Josué. Ils ont besoin de Caleb, ils ont besoin de gens courageux qui sont prêts à payer le prix et à rentrer dans ce combat spirituel. Il y a un prix à payer. Mais regardez le prix que Jésus a payé pour nos vies. Qu'est-ce que c'est que ce prix à payer ? Surtout qu'on sait qu'au final, on a déjà la victoire. La victoire nous est acquise par le sang de Jésus. Amen. Et avant d'aller plus loin, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré pour ton pays ? Et je parle pour moi-même. C'est quand la dernière fois que j'ai pleuré pour mon pays ? Que j'ai pleuré devant ce champ de ruines ? C'est quand la dernière fois que j'ai prié pour mes autorités ? La Bible nous demande de prier pour nos autorités, dans 1 Timothée 2, versets 1 à 2. C'est un ordre, c'est un saint commandement. Prions pour nos autorités, respectons-les. Mais vous croyez qu'en allant dans les rues, en manifestant, ça change quelque chose ? Vous avez vu Jésus dans la rue prendre des cailloux, manifester ? Jamais. La Bible dit qu'on ne l'a jamais vu dans les rues, dans les masses et dans les foules, mais il était en prière. La prière est l'arme efficace du juste. Elle est d'une grande efficacité. Est-ce qu'on est des hommes et des femmes de prière ? Est-ce qu'on a compris la puissance de la prière, la puissance de la louange ? Quand on adore Dieu, les miracles se passent. Les portes du ciel s'ouvrent. La prière collective. Souvent, on aime prier seul dans notre coin. Mais est-ce que vous savez la force de la prière collective ? Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, quoi que ce soit que vous demandiez, si c'est ma volonté, bien sûr, vous l'avez déjà reçu. Je vous l'ai déjà accordé. Et on continue à se battre pour des choses alors que Dieu a déjà tout accompli à la croix. Apprenons à rendre grâce. Apprenons à prier ensemble. Apprenons à reposer les fondements, les bases pour nos nations. Ne croyez pas que ça passera par le président. Hein. Ça passera par nous d'abord. C'est pour ça qu'au Burkina, Dieu m'a dit, fais une école. Prépare les cadres de demain. Commence à les prendre jeunes entre tes mains. Inspire-leur la crainte de l'Éternel. Enseigne-les la parole de Dieu. Donne-leur l'excellence académique. Et fais-en des leaders qui demain dirigeront le pays. Est-ce que nous, chrétiens, on a compris ça ? Ça passe par la base, la révolution. Elle passe d'abord par la révolution de nos cœurs, la révolution de nos vies. Ne cherchez pas à ce que le voisin change, que l'ancien change, que le pasteur change. C'est toi-même d'abord qui dois changer. C'est toi-même qui dois te laisser transformer par la puissance de vie de la parole de Dieu. Et moi, je vous encourage à le faire. Remettons nos hommes politiques en prière. Commençons à redresser les murailles de nos nations. Commençons à prier. Vous allez dire, mais redresser les murailles d'une nation, c'est quoi ? Vous avez une bouche et vous avez une autorité qui vient de Jésus-Christ. Commencez à proclamer la parole de Dieu sur la France. La France est une terre bénie. Partout où nous, chrétiens, on foule la plante de nos pieds, ce sol t'appartient. Je consacre le sol de mon village, de ma maison, de mon église, de mon quartier à l'Éternel. Au Burkina, j'ai trouvé fou au départ, mais des gens vont dans les villes, quand ils arrivent pour évangéliser, ils vont aux quatre points cardinaux. Et ils commencent à prendre autorité, contrôler les vents, appeler à la manifestation les chrétiens qui sont dans cette nation et qui les attendent. Ils vont la nuit, ils vont dans les quartiers, prier, appeler la présence de Dieu dans ces quartiers-là. Le combat spirituel, ce n'est pas rester assis seulement dans sa chambre. C'est même dans ton service. Tu es au travail, tu n'as rien à faire, tes collègues ne sont pas là. Viens cinq minutes avant. Impose les mains peut-être sur le bureau de ton patron, celui avec qui ça va mal, sur la chaise de ton collègue, et commence à proclamer ce que tu veux voir dans sa vie. Commence à le bénir. Commence à appeler la bénédiction de l'Éternel sur sa vie, sur sa famille. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Néhémie n'a pas eu peur. Et il a jeûné. Alors nous, on est français. Hein. Moi, le jeûne, c'est dur. Mais c'est dur. Et puis beaucoup de gens, ils jeûnent pour acheter Dieu. Ils veulent une femme, ils veulent une nouvelle voiture, un travail. Donc je vais jeûner parce que je me dis que Dieu va voir les efforts physiques que je fais et j'espère qu'il va me bénir en retour. Non, si c'est ça le jeûne, arrêter, ça ne sert à rien. Manger, c'est moins fatigant et c'est tout aussi efficace. Si vous voulez voir le vrai jeûne, allez dans Ésaïe 58. Le vrai jeûne, c'est pour écouter la voix de Dieu. C'est passer du temps dans la présence de Dieu. C'est lui dire, j'ai tellement à cœur cette question que je te pose, j'ai tellement à cœur ce sujet que je te présente, la nourriture n'a plus d'importance pour moi. Et on va dans la présence de Dieu avec sa Bible, seule, et la prière. Et vous savez, nous on est champions, surtout les hommes, hein. Nous on aime que ça aille vite, des projets, etc. On veut une réponse rapide. En fait, on n'apprend pas à écouter Dieu. On est dans la présence de Dieu, puis dès qu'on a fini, salut, bonne journée. Mais on a du mal à dire, je vais rester encore 10 minutes et voir ce que Dieu a à me dire. Et vous allez voir que quand vous allez commencer à écouter Dieu, Dieu va vous faire monter des stratégies, va vous faire monter des pensées dans le cœur qui viennent de lui parce que vous l'avez honoré, vous l'avez adoré, vous avez écouté sa parole avant. Et je suis convaincu que de grandes choses peuvent se passer en France. C'est maintenant, quand ça va aller mal, que nous, les églises et les chrétiens, on doit être la référence. On doit être capable d'aider. On doit être capable de réussir quand tous les autres échouent. Parce qu'on a ce Jésus-Christ, on a ce Saint-Esprit qui est en nous, qui nous qualifie pour vivre des miracles. Amen. Regardez autour de nous, même nos églises. Mais dans les derniers temps, Paul nous l'a dit, vous verrez des églises où les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des fausses doctrines, à des doctrines de démons. Il nous en parle dans Timothée. Il nous dit, mais vous verrez des églises où on ne veut même plus entendre la bonne doctrine. On ne veut plus. On veut entendre ce qui flatte nos oreilles, ce qui flatte nos cœurs. Et vous savez, il y a quelque chose qui m'a touché pendant ce séjour, c'est que beaucoup de pasteurs ou d'anciens qu'on a visités nous ont dit que nos chrétiens ne veulent plus entendre la vérité. Ils sont plus prêts à être disciplinés avec l'amour de Christ. Ils veulent entendre uniquement ce qu'eux veulent entendre. On a des chrétiens commerçants. Ils prennent dans la Bible ce qui les intéresse et ils laissent le reste. Non. On doit être des chrétiens responsables. Vous savez, être ancien, être pasteur, ce n'est pas aisé. Et ça requiert également la prière de l'Église. Est-ce que nos prières, nos églises ont des groupes de prière, nos familles, pour nos responsables, nos pasteurs? Ils ont besoin de la sagesse. Ils ont besoin du discernement. Ça reste des êtres humains. Ils peuvent se tromper. Mais en général, je dis qu'en général, on a les anciens, le pasteur, que l'Église mérite. Si on les abandonne à eux-mêmes, si jamais tout est une charge pour eux, si jamais on vous reprend, c'est difficile. Ils vont le faire avec amertume. Et ça sera une racine d'amertume même dans l'Église. Et je vous assure, on a un aîné, mais incroyable. Il s'est battu toute sa vie pour l'Église. Dès qu'il veut dire des choses aux gens, il dit « Mais je suis obligé de me mettre en jeûne et prière quasiment une semaine avant pour avoir la stratégie, parce que quoi que tu dises, il va trouver quelque chose pour dire que c'est un manque d'amour. Parce qu'au nom du fameux manque d'amour, on doit tout accepter. » Ça n'a pas de sens. Paul était clair, il y a des principes bibliques, on ne doit pas transiger dessus. L'esprit de division, combien d'églises, partout on est passé, ça se divise. Ça continue. En Suisse, à Genève, je n'entends que ça depuis que je suis arrivé. Nyon, partout. Les disputes, les querelles, entre personnes, entre responsables. Le monde qui rentre dans l'église, sans qu'on s'en rende compte. Et notamment, ce n'est pas votre faute les jeunes, mais à cause de vous. Entre guillemets. Pourquoi ? Vous avez vu ce qu'on vous sert dans l'école publique aujourd'hui ? Mais c'est une honte. Tout ce qu'on vous enseigne à l'école, souvent, c'est contraire à la parole de Dieu. Et quand vous baignez 8 heures par jour à l'école et que vous venez 1h30 à l'église, ben, à votre avis, vous êtes plus impacté par quoi ? Le cœur d'un enfant, c'est un grenier, c'est une éponge. Tout ce que vous recevez à l'école, même si vous ne le voulez pas, ça finit par influencer votre vie. Le choix de vos camarades, le choix de vous habiller, le choix de parler, le choix des valeurs que vous adoptez, le choix de la société dans laquelle vous allez vivre. On est influencé sans s'en rendre compte. Et le problème, c'est que Satan est malin. Il utilise les nouvelles technologies pour accentuer, pour multiplier son effet dévastateur et amener une culture mondiale qui sera soumise à son autorité. Et si nous, les chrétiens, on n'ouvre pas les yeux, on est en train de livrer nos jeunes à Satan. On en discutait, partout on est passé. Les jeunes disent maintenant, on veut même plus mettre nos enfants au collège public. Grand Villard, c'est quand même pas loin d'elle. Il y a plusieurs familles qui disent, on n'est pas prêt à mettre nos enfants là-bas et eux-mêmes ne veulent pas y aller. Ils sont plus d'accord. Et nous, les protestants, en 1905, on a rendu toutes nos écoles à l'État. Et quand il y a des églises chrétiennes, on s'en méfie. Nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Comment ça sera prié? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui? Et moi, je vous assure que quand je vois ça, je me dis il faudrait un Martin Luther King bis, soit en Suisse, soit dans le pays de Gex, soit, bon, ça serait peut-être compliqué, mais plutôt peut-être en Alsace. Je me dis, mais il y a tellement de parents qui sont déchirés, d'enfants qui se cherchent, qui disent, mais tout ce qu'on me montre à l'école, ce n'est pas ce qu'on me dit dans la Bible. Mais imaginez si nos jeunes n'ouvrent plus la Bible. Qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qui vit dehors va venir à l'église. Et ils vont grandir, ils deviendront responsables. Et on aura des églises où on loue Dieu, on chante Dieu, mais Jésus et le Saint-Esprit seront à la porte. Ils n'auront plus la liberté de venir parce qu'on va enseigner des faussetés. Et on va vivre des choses qui sont contraires à la parole. Moi, je vous encourage, je crois qu'aujourd'hui, on a encore la possibilité, le moyen de redresser les choses. L'Église est là pour être la solution du monde. Et cette Église dont je viens de parler, la nation dont je viens de parler, la première cellule, c'est la famille. Regardez comment la famille est attaquée. Pascaline m'a dit dernièrement, en 2 ans, on a vu Satan se déchaîner contre les couples et les foyers, et les relations parents et enfants. On parle de divorce depuis 10 ans, on n'avait jamais entendu ça avant. Dans ma propre famille, 2 de mes cousins, le même jour, annoncent à leurs 2 frères, qui sont mes 2 oncles, qui divorcent. Je viens d'un milieu d'arbiste, inutile de vous dire que là-bas, le mot divorce, c'est un gros mot. Même pour le prononcer, c'était tout un problème. Et aujourd'hui, dans nos églises, on pense que le divorce est juste, c'est injuste. Il faut aussi reposer les bases. Et beaucoup de gens ont peur de dire la vérité. Le divorce est contraire à la parole de Dieu. Quand on dit « mais c'est plus possible », c'est vrai, humainement c'est plus possible. Mais Dieu dit « je suis le Dieu de l'impossible ». Qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui amène au divorce ? Le moi, le je, l'âme. On m'a fait, je fais. Je te donne, tu me donnes. Alors qu'on oublie que le mariage, c'est quoi ? C'est un engagement devant Dieu. Un engagement devant Dieu jusqu'à la mort. On le dit, mais combien le vivent ? Et engagement jusqu'à la mort, ça veut dire pas seulement quand tout va bien, ça c'est facile, mais quand tout va mal. Quelle est la base ? Si la base du foyer, c'est l'Évangile, c'est Jésus-Christ, il n'y a pas un seul problème qui peut poser difficulté. Maintenant, ça ne veut pas dire que maintenant, il faut mettre les divorcés en dehors de l'Église. Bien sûr que non. Ce sont des cabossés de la vie. Mais il faut enseigner, aimer, encourager, surtout nos jeunes. Quelle image on donne à nos jeunes du foyer, du couple ? Qu'est-ce qu'ils vont reproduire demain ? On a cette responsabilité-là d'aimer, de chérir, d'aller avec douceur. Oh, moi, je parle peut-être fort, mais c'est de tout mon cœur que je vois des couples souffrir et ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur. Des gens d'un certain âge, près de 70 ans, qui se lèvent d'une famille avec petits-enfants et on se sépare. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les gens ne comprennent pas qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre l'autre, mais on a lutté contre les principautés, les autorités et le monde spirituel. Celui qui est le problème dans mon couple, dans ma famille, dans mes relations avec mon père, ce n'est pas mon père, c'est l'esprit qui anime mon père. Ce n'est pas ma femme, mais c'est l'esprit méchant qui est en train d'animer ma femme et qui veut mettre le feu dans mon foyer. Et là, maintenant, c'est la responsabilité des hommes. Bien souvent, beaucoup d'entre nous, nous avons démissionné. Lâchement de notre responsabilité du foyer. Jésus ne demandera jamais à la femme « qu'est-ce que tu as fait de ton foyer ?» La responsabilité morale et spirituelle est le rôle de l'homme. Est-ce qu'on reprend conscience de ça ? Nous avons ce rôle à jouer de tout cœur. Vraiment, moi j'aimerais vous dire, ce n'est pas du jugement, ce n'est pas de la méchanceté, c'est tout mon cœur qui parle. Je vois tellement les gens souffrir partout. Au début, je pensais que c'était qu'en Europe, d'ailleurs, même en France. Suisse, c'est la même chose. Burkina, c'est la même chose. Quelles que soient les régions, c'est la même chose. On est en feu. Alors que le Saint-Esprit est venu pour nous donner le feu de quoi ? De son amour et du zèle de son esprit. Donc je prie vraiment le Seigneur puisse conduire les foyers et les couples à se ressouder. C'est vraiment important. Les parents et les enfants. Est-ce que vous imaginez les enfants aujourd'hui comment on parle à ses parents ? Nous en Afrique, tu mets un petit mot un petit peu plus haut que l'autre devant le papa, tu as quasiment tout le quartier qui va te reprendre. Pourquoi ? Parce qu'on a encore des principes. Et vous avez oublié, et on a oublié, le premier principe avec une promesse de la Bible, honore ton père et ta mère. Honorer, c'est beaucoup plus fort que de aimer. C'est plus fort que respecter. Et en plus, c'est le seul qui est suivi d'un commandement. Et ce commandement, vous le connaissez ? C'est lequel ? Non, commandement, pardon, une promesse, excuse-moi. On va vivre de longs jours et on vivra heureux. Qui ne veut pas ça ? Moi, je veux revoir une église heureuse, je veux revoir des familles heureuses, des enfants qui sourient, des parents qui sont heureux avec leurs enfants, qui font des choses ensemble. Et c'est possible, c'est possible. Nous sommes des Néhémie. Et le vrai problème de tout ça, et je termine là-dessus sur la présentation, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes en tant qu'individus. Le problème, c'est notre âme. Notre âme, le siège de nos émotions, de nos pensées, de notre volonté. Souvent, on n'arrive pas à dominer cette âme-là. Et on la laisse, on la ventre les mains de Satan. Et l'âme et le corps vont s'unir contre notre esprit. Et c'est pour ça qu'on a plein de chrétiens charnels qui sont conduits non pas par l'esprit mais par la chair, alors que de tout leur cœur, ils aiment Jésus. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à rentrer dans ce combat spirituel. On doit reprendre le terrain qu'on a perdu contre Satan. C'est possible, pas par nos forces, pas par la chair, mais par le Saint-Esprit. Regardez, Néhémie, le jeûne et la prière. Et qu'est-ce qu'il a fait dans ce jeûne et de cette prière? Si vous lisez la suite du verset 1, Néhémie a passé son temps à demander pardon pour ses propres péchés. Puis après, il a demandé pardon pour les péchés de sa famille. Puis après, pour les péchés de sa nation. Demandons pardon. N'ayons pas peur de faire des jeûnes et des prières pour inciter, incliner le cœur de Dieu vers la France, vers le Burkina, vers la Suisse. Demandons pardon à Dieu pour tous les péchés de nos familles, pour nos péchés cachés. Parce que souvent, beaucoup d'entre nous, on a des péchés cachés. Moi qui suis devant vous, je ne suis pas saint. Hein. J'ai des combats, j'ai des luttes comme vous tous. Mais j'ai Jésus-Christ en moi et j'ai le sang de Jésus qui me lave et qui me purifie. Et j'aimerais vous dire, ne baissons pas la garde. Jeûnons, prions, demandons à Dieu pardon pour nos péchés, les péchés de nos parents, peut-être les péchés de nos grands-parents. Vous savez que Dieu est un Dieu de bénédiction, c'est le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Il bénit sur plusieurs générations, mais il y a également une malédiction qui va sur plusieurs générations. Est-ce que vous savez ce que nos parents, nos grands-parents ont fait dans le passé? On n'en sait rien. Nous avons une bouche, nous avons autorité pour briser tous les liens sataniques, toutes les choses négatives qui ont pu arriver dans nos vies avant que nous soyons là et que nous soyons au courant. Il faut nous libérer de tout ça. Libérons nos enfants. Prions pour nos enfants. Combien vont dans la chambre le soir, quand ils dorment, poser la main sur leur tête et commencer à les bénir? Commencer à appeler à la manifestation des conjoints chrétiens engagés. Demander à ce que Dieu garde leur cœur, garde leurs pensées quand ils sont à l'école, quand on n'est pas avec eux. C'est ça le combat spirituel. Le combat spirituel, ça demande, c'est Dieu qui agit, mais ça demande notre participation, une collaboration. On ne travaille jamais pour Dieu, on travaille avec Dieu. Et Néhémie a fait ça de tout son cœur. Et puis il était voir son roi. Il lui a dit, maintenant, là, ça ne va pas dans mon peuple, est-ce que je peux aller à Jérusalem? Et contre toute attente, le roi a dit oui. Ça devrait être une bonne nouvelle pour vous, parce que dans Néhémie 2, verset 8, la Bible nous dit, la bonne main de mon Dieu était sur moi. Est-ce que tu as conscience que la bonne main de ton Dieu, elle est sur toi? Un Dieu qui ne te juge pas, un Dieu qui ne s'arrête pas là où tu es aujourd'hui, mais un Dieu qui voit plus loin, un Dieu qui a une vision de bonheur, un Dieu qui veut reconstruire les murailles de ta vie et de ton cœur. La bonne main de notre Dieu est sur nous. Ne l'oublions jamais. Et souvent, Satan va tout faire pour détourner nos regards de sa bonne main et nous concentrer sur les circonstances et sur les problèmes. Et on avance. Quand il arrive là-bas, il arrive maintenant avec la bénédiction de son Dieu, de son roi, pardon. Donc, tu sais que tu peux incliner le cœur de ton président? Enfin, je pense, hein, s'il a pu incliner le cœur de son roi alors que Jésus n'était pas venu, qu'il n'y avait pas son sang, qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit, par la prière, et nous, on peut incliner le cœur de son conjoint, on peut incliner le cœur de ses parents, on peut incliner le cœur de ses enfants. Dans la main de l'Éternel, le cœur d'un homme, c'est de l'eau, il en fait ce qu'il veut, il peut le canaliser où il veut. Mais est-ce qu'on croit à cette puissance de l'Esprit? Et moi, je suis convaincu que cette puissance, elle est dans ta main, elle est dans ma main, elle est dans ton cœur. Et tu peux faire beaucoup plus que ce que tu crois aujourd'hui. Et notre ami Néhémie, il arrive devant ce champ de ruines. Il n'a pas commencé à dire à tout le monde, on va reconstruire les murailles. Si vous connaissez votre Bible, qu'est-ce qu'il a fait pendant 3 jours? Il a tourné avec sa mule la nuit, pendant 3 jours. 3 jours, bizarrement, c'est 3 jours que Jésus est resté. Ah, d'accord. Donc il cherchait sa solution. Il cherchait à sortir de ce tombeau, à sortir de cette situation. Et il faisait la nuit, comme Jésus allait toujours consulter son Père au petit matin ou à la nuit. Il était seul avec quelques serviteurs. Et qu'est-ce qu'il a fait? Certainement pendant 3 jours, il a prié. Il a demandé à Dieu, donne-moi ta stratégie. Quelle est la stratégie pour reconstruire ces murailles? Ça paraît complètement fou. On est un petit nombre. Je ne sais pas si vous imaginez, les murailles de Jérusalem, c'est 4 km. Des murs de 12 mètres de haut, 2,50 mètres de large. Comment on va faire? Alors qu'on n'a que des ennemis autour. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a consulté Dieu. Et dès qu'on arrive au chapitre 2 et au verset 17, une fois qu'il a reçu sa stratégie, il a convoqué le peuple. Et là, ça doit parler aussi à nos anciens, à nos pasteurs. Avant de convoquer le peuple, des assemblées générales, des choses comme ça, là, mettons-nous à genoux, demandons à Dieu quelle est la stratégie. Qu'est-ce que tu veux dans 6 mois, dans 1 an? Et quand vous êtes sûr maintenant, on convoque le peuple. Et maintenant, Il n'y avait plus de doute dans la bouche ni dans le cœur de Néhémie. Il savait exactement où ça allait. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit maintenant, il a appelé le peuple, « Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. » Il fait un bilan, un constat. On peut faire le même constat dans nos vies aujourd'hui. Mais Dieu te dit, c'est pas fini. C'est la suite qui est intéressante. Venez, l'union, la solidarité, la communion fraternelle, regroupons-nous, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Dieu te dit, viens, on va reconstruire ensemble la muraille de ton foyer, la muraille de ton couple, la muraille de ton église, la muraille de ton pays. Tu n'es pas seul, on est ensemble. Je suis là au milieu de vous. Et c'est moi qui vais être la tête et qui vais vous conduire. Il n'y a pas deux têtes dans l'église, c'est Christ seulement. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a encore ramenés à lui. Il leur a dit, verset 10, 18, pardon, ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Le titre de mon message, c'est ça. Lève-toi et bâtis. J'aimerais dire, lève-toi et rebâtis. On a tous passé par des souffrances. On a tous été écrasés par la vie, maltraités par quelqu'un, humiliés, découragés. Mais Dieu te dit, c'est fini. Ce temps de l'abattement est fini. Il est temps de te lever. On va se lever ensemble en tant que famille. Lève-toi avec ton église. Lève-toi et commence à redresser, à bâtir ce mur. Rebâtis le mur spirituel de ta famille. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le soir avant de te coucher, prie avec ta femme. Appelle les anges à ton... Les anges existent. Ils sont au service de nous, les chrétiens. Demande aux anges de protéger ta maison. Trace une haie vive. On dit ça en Afrique, ça ne parle pas beaucoup aux gens. Mais avec le sang de Jésus. Mais si le sang d'un bouc a pu faire fuir l'ange de la mort et Satan, le sang de Jésus, ça va faire quoi ? Alors, bien sûr, on ne va pas l'égorger un mouton aujourd'hui, un poulet, et commencer à badigeonner du sang partout. Mais ta bouche, bah, tu l'utilises comme le pinceau et tu commences à badigeonner ta maison, tes enfants, tu les couvres par le sang de l'agneau. Là où il y a le sang, Satan et les démons n'ont pas accès. Ils ne peuvent pas venir. Tes enfants sont protégés, ta famille est protégée, ton pays est protégé. C'est ça le combat spirituel. C'est retrouver en fait les principes bibliques qu'on a oubliés. Ils sont dans la Bible, mais on ne les connaît plus. Ou alors on se dit, ouais, le sang c'est gore. Beaucoup d'églises, quand on parle en France aux gens, ils disent, ah, le sang de Jésus, vous êtes sûr ? Ben, il n'y a pas 50 000 armes qu'on a à disposition. Il y a le sang de Jésus et le nom de Jésus. Ça, c'est deux armes puissantes pour voir les prières accomplies et pour apporter la protection et la bénédiction sur nos foyers et sur nos enfants. Et quand ils ont décidé ça, vous croyez que Satan les laisse dormir ? Que nenni ! Vous les connaissez, les ennemis du peuple là-bas, les plus irréductibles ? Comment ils s'appelaient ? Ceux qui ont voulu décourager Néhémie. Sanballat, le Horonite, et Tobia. Les deux ont tout fait pour décourager le peuple de Dieu et Néhémie. Quand vous allez prendre cette résolution de redresser les murs de vos familles, de vos cœurs, de vos églises et de nos nations, Satan va vous attaquer. Forcément, vous devenez dangereux. Potentiellement, vous devenez des gens capables de réduire son royaume à néant. Il va commencer à envoyer des critiques. Il va commencer à envoyer des paroles de découragement. Tu n'y arriveras jamais. Ne confonds pas la persévérance et l'obstination. Attention, la parole de Dieu dit, oui, c'est vrai, mais regarde, le mais. Oui, mais. La foi négative, le doute. La foi négative et le doute. C'est ça que Satan va instiller en vous pour vous faire douter de la capacité de Christ à aller au bout des problèmes et à amener les solutions. Et moi, je crois qu'il n'y a aucun problème sans solution sur cette terre si on le confie à Jésus-Christ et qu'on cherche de tout son cœur. Amen. Amen. Ah, je sens un peu plus de foi, ça monte. Amen. Ok, on est ensemble maintenant. Donc on va continuer. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Le Dieu des cieux nous donnera le succès, nous, ses serviteurs. Il a commencé à proclamer Néhémie. Le peuple a proclamé. Nous avons entendu la parole, on ne se fie pas à ce qu'on voit. La situation est catastrophique. On vit à ce qui est devant, ce que Dieu nous a dit. Nous rebâtirons les murailles. Les murailles sont reconstruites. Chaque jour, ils se levaient en disant « les murailles sont reconstruites ». On ne se laissera pas décourager. Et on dit qu'ils priaient d'un côté et ils travaillaient pour rebâtir les murailles et ils avaient l'arme au côté parce qu'ils allaient être attaqués. On savait qu'ils allaient être attaqués. Sachez que vous allez être attaqués. Sachez que spirituellement, vous allez être attaqués à partir du moment où vous allez rentrer dans ce plan de reconstruction. Il n'y a pas de hasard, mais la Bible te donne un verset pour t'encourager. Néhémie 4, verset 14, Il te dit, mon frère, ma sœur, mon fils, ma fille, mon prince, ma princesse, ne crains pas les ennemis, ne les crains pas. Souviens-toi du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Combattez. Il n'a pas dit, soyez statique. Combattez. Ça ne veut pas dire prendre une arme physique. Prends ta Bible. Prends cette Bible, même si elle est lourde, elle est noire, c'est pénible à lire au début. Etc. Prends ta Bible. Proclame des versets bibliques. Parle à Dieu. Parle à Satan et à son royaume. Tu n'as pas autorité sur ma famille. Tu n'as pas autorité sur mon enfant. Tu libères mon enfant. En esprit, il n'y a ni temps, ni espace, ni temps. Tu peux parler spirituellement à quelqu'un qui n'est pas devant toi. Dans le monde spirituel, c'est cette autorité, cette arme que nous avons et que nous négligeons. Ça change les choses. Et au son de la trompette, verset 20, la Bible nous dit, notre Dieu combattra pour nous. Toi, ton boulot, lis ta Bible, connais les principes, prie, proclame, mets en application. Et laisse le Saint-Esprit faire son œuvre. Ennemi a dit, notre Dieu combattra pour nous. Notre Dieu combattra pour nous. Et j'arrive à la fin, c'est le plus beau pour moi. Vous savez, à la fin, la muraille, c'est au chapitre 6, verset 15. Chapitre 6, verset 15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul en 52 jours. Imaginez. Moi, je n'avais jamais remarqué. C'est un jour, j'ai entendu un prêche sur ce passage. Il dit, mais imaginez le petit nombre d'hommes qu'ils étaient. Ils devaient restaurer des kilomètres de murailles, 12 mètres de haut, 2 mètres 50 de large, 8 portes, 31 bastions. Comment ils ont pu faire en 52 jours? Et j'aimerais vous dire, en fait, c'est là que vous voyez Dieu combattre à votre place. C'est comme le mur de Josué, les murailles de Josué, devant Josué à Jéricho. Demandez à Dieu sa stratégie et vous verrez que sa stratégie, elle paraît folle pour les hommes. Mais elle est sage aux yeux de Dieu. Et vous pouvez tout faire par votre propre force, par vos pensées, vos efforts. C'était impossible de construire cette muraille en 52 jours. Totalement impossible. Et vous savez, on a testé ça avec Pascaline pour le bâtiment des filles. Dans ce message, il y a un pasteur qui a proposé à ceux qu'il voulait, parce qu'il l'avait fait lui-même, il a dit que lui, il a fait une semence d'achèvement en 52 jours devant Dieu. On parle d'argent, zut alors, faut pas. Si, mais si, l'argent, ça fait partie de la Bible et de la vie chrétienne, la semence. Et avec Pascaline, on a reçu dans notre cœur, ce bâtiment, il doit être là pour la rentrée. On est convaincu qu'il est déjà là, on le voit, mais on n'a pas vu encore la manifestation. Et suite à ce message, on a fait une semence d'achèvement dans la vie d'un pasteur et d'une église. Le 52e jour, je reçois le mail d'une jeune fille qui est une de mes anciennes élèves de Florimont en Suisse, qui finance la totalité du bâtiment qui me manquait pour bâtir un foyer de 100 places pour les jeunes filles. Notre Dieu, souvent, des fois, nous donne des stratégies, mais on veut réfléchir avec notre tête. Mais non, ça, c'est pas possible. Mais non, mais c'est de la folie. Avec Dieu, quand c'est de la folie, sache que souvent, il est dedans. Et il te demande des fois de faire des choses folles aux yeux du monde pour tester ta foi. Parce que j'ai oublié de vous rappeler, mais Jésus n'est pas revenu pour chercher des chrétiens. Hein. Il dit qu'il va revenir chercher l'Église et il se demande une seule question. Pas est-ce que je trouverai des chrétiens? Est-ce que je trouverai de la foi? Est-ce que je trouverai de la foi dans ton cœur, mon frère, ma sœur? Est-ce qu'il trouvera de la foi dans mon cœur? J'aimerais vous laisser cette question. Est-ce que vous voulez mettre Dieu à l'épreuve? Est-ce que vous voulez enfin rentrer dans cette reconstruction? Est-ce qu'on veut enfin retrouver le bonheur de l'unité avec Jésus-Christ, avec mes frères, avec mes sœurs? Est-ce qu'on veut enfin bannir les mensonges de Satan de nos familles, de nos églises, de nos liens entre couples? Mais regardez les dégâts qu'il y a. Ça va venir dans l'église. Ça va s'accentuer si on ne fait pas attention. Alors qu'on a la capacité de tenir ferme ensemble. Moi, je crois en vous. Vous savez pourquoi? Parce que Christ, il croit en vous et il habite en vous. Et qu'en Christ, il n'y a pas d'échec. Il y a des temps où ce n'est pas facile, mais il est toujours avec nous. Et moi, j'aimerais vous mettre au défi de fermer vos yeux. Fermez vos yeux. Regardez dans vos vies. Quelle est la muraille aujourd'hui qui est la plus détruite, qui est la plus attaquée? Quel est le secteur de ma vie, de ma famille, de mon église, de ma nation? Où est-ce que vraiment j'ai envie de m'engager? Sur quelle muraille je veux m'engager? Où est-ce que j'ai envie de rebâtir, de reconstruire? pas seul, hein, avec le Saint-Esprit. Et j'aimerais que dans ton cœur, là, tu prennes cet engagement avec Dieu. Dis-lui, je vais m'engager maintenant pour rebâtir cette muraille spirituelle dans ma vie, dans ma famille, dans mon pays. Je vais prendre autorité. Je vais revenir dans ta parole, qui est la seule boussole. C'est là qu'il y a toutes les lois et tous les principes. Je vais redevenir un homme de prière. Je vais redécouvrir ma relation avec toi, ma communion fraternelle, ma communion avec toi. Et je te promets une chose, si tu es sincère dans ton cœur et que tu mets tout en œuvre, Dieu va faire le travail. Prends position seulement. Prends cet engagement dans ton cœur, dans ta vie. Et tu vas vivre le miracle de Néhémie. C'est Jésus-Christ, par son esprit, qui va mener le combat à ta place. Et la grâce, c'est que celui qui est dehors, qui va te combattre, est plus faible que celui qui est en toi. Ce Saint-Esprit vivant et puissant. Je vais juste prier pour terminer et vous dire, c'est un message d'encouragement, pas de jugement. On a tous fait des erreurs, on en fera tous. Mais on a le choix de rester dans ces erreurs ou d'en sortir la tête haute et de redevenir des bâtisseurs et des Néhémies. Prions. Père de grâce, Père d'amour, Père de bonté, je veux te bénir pour cette église de Prèves-Saint. Tu sais la joie qu'on a dans le cœur avec Pascaline à chaque fois qu'on vient ici. Tu sais combien on les a à cœur. Et tu sais combien cette église a un témoignage vivant et important et puissant dans cette région du Pays de Gex. Mais Père, je te demande de continuer à donner à nos anciens, à nos aînés, aux futurs pasteurs, la stratégie, le discernement, la sagesse pour conduire ce troupeau. Pour conduire ce troupeau et le nourrir, Seigneur, dans la parole. Je te remets particulièrement les jeunes, Seigneur. Tu sais combien ils sont attaqués, combien ils sont soumis à la tentation, combien ils sont soumis, Seigneur, aux sollicitations du monde. Je te demande de les affermir dans ta parole. Je te bénis pour ce groupe de jeunes qu'on a ici. Je te bénis pour le rôle motivateur que tu as donné à Pierre Boinel. Couvre-le de ton onction également pour maintenir ce groupe de jeunes dans l'unité et dans l'amour de la parole de Dieu. Et tu vois mes frères et mes sœurs. Moi, je ne connais pas leur vie. Mais toi, tu sais là où ça ne va pas. Là, tu sais où il y a des blessures, des souffrances. Je te demande, Saint-Esprit, en cet instant, d'honorer l'engagement qu'a pris mon frère et ma sœur, de rebâtir ce pan de sa vie, ce pan de sa nation, ce pan de son Église avec toi, sous ta conduite, par ton esprit. Et je te rends grâce parce que je sais que nous sommes exaucés, parce que tu es le Dieu qui promet et qui tient ses promesses, un Dieu qui est fidèle à sa parole. Et je veux laisser dans cette église vraiment ta paix, cette paix qui dépasse toute imagination. Laissez l'amour de la parole, y laisser ta miséricorde, ta compassion, cette communion fraternelle qui existe entre nous. J'aimerais que tu encourages ces jeunes dans les foyers à rester fidèles à leur couple, à leurs engagements, que tu bénisses ces jeunes dans leur relation avec leurs parents et que vraiment toute cette bénédiction qui coule sur cette église de Prèves-Saint puisse rejaillir sur le Pays de Gex, dans leur quartier, dans leur ville, sur le lieu de travail, dans leur famille, là où des gens ne te connaissent pas encore. Et là où il y a de la souffrance, tu mets ta consolation. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis. C'est tout mon cœur. Franchement, c'est tout mon cœur. Ça fait un mois et demi que ça tourne dans tous les sens. Et je crois qu'on doit se battre à nouveau. Et qu'on a la victoire en Jésus-Christ. Soyez bénis. Pas de découragement.
Ça fait du bien quand Dieu parle. Ah, mais c'est pas que le dimanche matin. Ça, c'est cool. On y va. C'est la rentrée. Si on s'endormit, on se réveille. On se réveille avec le programme de la semaine qui commence un petit peu gentiment à revenir. Je peux l'afficher. J'ai kiffé parce que tu nous as donné les passages pour la réunion de prière là, de mardi. Alors je vous lis juste le travail pour mardi, la réunion de prière, Ésaïe 58. Je ne vous lis pas 9, 10, 11, vous les lirez vous-même. Il y a des si, il y a tout plein de si. Mais je vous lis juste la fin. Si tu fais ces choses qui sont dites, le Seigneur restera ton guide même en plein désert, il te rassasira et te rendra des forces. Tu feras plaisir à voir, comme un jardin bien arrosé, comme une fontaine abondante dont l'eau ne tarit pas. Alors, tu relèveras les anciennes ruines et tu rebâtiras les fondations abandonnées depuis longtemps. On te nommera ainsi, le nom qu'on ne donne pas à des enfants, hein, mais c'est un nom incroyable. On te nommera ainsi le peuple qui répare les brèches des murailles et redonne vie aux ruelles de la ville. Donc, Ésaïe 58, vers le milieu, on lit ça et puis je pense qu'on On s'en inspirera pour mardi. Pour la réunion de prière qui a été affichée, il y a aussi l'étude biblique des aînés, si je ne me trompe pas, mardi. Ouais, la rencontre des aînés, super. Et puis encore tranquillou jusqu'au dimanche, mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Ça va arriver, déjà je vous rappelle, dans deux semaines, on a le week-end d'église. Pas ce dimanche de septembre, le dimanche 9 septembre, donc pour ceux qui nous visiteraient, qui ne connaissent pas, on fait un week-end d'église. Il n'y aura pas de culte ici, mais vous êtes carrément les bienvenus. J'ai envie de faire un truc, j'ai pensé à ça hier, lever la main ceux qui vont au week-end d'église, juste pour voir. Voilà, regardez ce champ de main. Je peux vous dire, j'ai compté vite fait avant de venir ce matin, il y a 70 plus personnes inscrites. Ne ratez pas ce week-end d'église, parce que c'est un bon moment, déjà c'est sympa, on peut mettre du temps pour nous, mais on peut mettre du temps pour apprendre à reconstruire ses murailles ensemble, pour apprendre à lutter ensemble, pour avoir la présence de l'Esprit ensemble. Ça se passera à Champfleury, à 1h30 d'ici, en voiture. Si vous voulez des renseignements, venez me voir, ou bien aller voir Pierre ou quelqu'un. Mais ne le ratez pas. Et ce n'est pas parce que tu es là pour la première fois que c'est réservé à ceux qui sont dans l'église, toujours à la même place. Non, ce week-end, il est pour tout le monde. Donc si tu veux venir, viens, le 8 et 9 septembre. Une annonce pour les commissions travaux, si tu veux afficher le diaporama, Clément. Donc Paul me passe ces informations que je vous laisse regarder. C'est un peu le calendrier de tout ce qui va se passer sur les prochaines semaines, les prochains mois. Alors on a parlé de reconstruction du cœur de chair, de pierre qui doit devenir cœur de chair, mais il y a aussi de la reconstruction et le rafistolage aux normes du bâtiment. Ça vous donne une idée du calendrier. Ils bossent, hein, les gars de la commission, les gars et les filles aussi, hein, de la commission travaux. Le plus important, c'est pour samedi prochain. C'est samedi matin, Paul ? Ouais, samedi matin, on a besoin de 2-3 personnes. Alors, je demande juste là qu'il y ait 2-3 personnes qui lèvent la main pour savoir. Deux. Ouais, toi, tu comptes pas, tu lèves pas la main, toi. 2 personnes qui lèvent la main, s'il vous plaît, pour samedi matin, pour venir aider. Il n'y a pas besoin de compétences particulières. On peut être jeune même pour le faire. C'est pas interdit. Deux. Merci, 1, 2.
Okay. Rendez-vous à 7h30.
Ça, c'est la partie qu'il n'a pas fait. Il est coquin, le Paul. Hein. Donc, je vous ai laissé lire, je vais pas le lire. Forcément, on le mettra peut-être sur le site pour qu'on soit au courant de ce qui se passe. Mais voilà, ce qui va être pour la suite, pour le bâtiment. Quelques nouvelles des gens qui sont blessés dans l'église. Vous avez reçu cette semaine un mail de Annise qui a eu un accident de cheval. Annise, si vous ne voyez pas bien qui c'est celle qui joue au piano de temps en temps. Donc elle a eu un gros accident de cheval. Je ne sais pas si quelqu'un sait si elle est sortie de l'hôpital ou pas. Je n'ai pas la confirmation. Elle est sortie ? Ok. Donc peut-être on mettra son adresse email aussi comme contact sur le site ou quelque chose. Si vous voulez lui envoyer un petit message, je pense que ça lui fera chaud au cœur. Donc grosse chute en cheval, cheville bien éclatée. De la patience maintenant. On pense aussi à Mike qui est toujours hospitalisé pour son sevrage. Je rappelle que l'adresse est au fond pour Mike, donc n'hésitez pas à prendre l'adresse pour lui écrire un petit mot ou bien un petit SMS, ça lui fera bien plaisir, il peut les recevoir. Encore 2 choses, vous avez reçu un mail encore hier soir pour une histoire de vente de miel, pour ceux qui aiment le miel, si vous avez eu le temps de lire vos miels. Donc c'est Franck et Johanna qui sont là. Franck lève la main juste qu'on voyait. Voilà, merci. Franck, il fait du miel chez lui. Si vous allez, vous verrez, il y a des abeilles au fond du jardin. Et il a beaucoup de miel. Et il s'est dit, je vais faire une petite vente à l'église. Et la vente, on la remettra dans la collecte sur sa proposition. Donc, on ne pouvait que forwarder le mail. Ça nous semblait une bonne affaire. Mais non, au-delà de la bonne affaire, on trouve que ce geste est sympa. Ce miel, moi, j'aime pas trop le miel, mais celui-là, je l'ai goûté, il est pas mal. Donc, j'essaie de faire le bon vendeur, mais en sachant que j'y connais rien, mais j'ai trouvé qu'il était pas mal. Donc, Franck se mettra à la sortie, 10€ le pot de 500 grammes, c'est ça ? Ouais. Donc, si vous avez, il se mettra à la sortie cette semaine, et puis les semaines prochaines, on fera avec d'autres, si t'es pas là, pour liquider le stock. Donc, voilà, allez voir Franck. Et puis, comme vous le savez, cette journée n'est pas terminée. Vous savez ou peut-être pas. Aujourd'hui, on va dépouiller ce vote de pasteur. Donc, on ne sait pas. On va voir. On est content de voir Philippe, Kéla et Marie-Ève. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Je laisse juste 5 minutes aux personnes qui n'auraient pas encore voté pour voter. Si jamais vous avez oublié votre bulletin, venez me voir, on s'arrangera. Et dans 5 minutes, vous avez le temps comme ça d'aller acheter le miel à Franck, de dire bonjour. Et puis dans 5 minutes, pour ceux qui veulent, on dépouillera ici, on aura besoin de 2-3 volontaires, le résultat du vote pasteur. Ok ? On rebâtit ces murailles ? On fait tout ça ? Bon dimanche à tous.